Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bonjour à tous et bienvenue sur Positron, l'émission qui vous fait un zapping de bons plans tellement excellent que vous n'aurez plus jamais le temps de vous ennuyer. Bonjour à tous et bienvenue sur Positron. Positron, c'est l'émission où on vous propose trois trucs cool en 20 minutes, trois films, séries télé, BD, etc., etc., que vous pourrez apprécier en cette rentrée difficile pour vous faire partir un peu la tête dans les étoiles, par exemple. Moi, je dis ça, ça aura peut-être un rapport avec certains
ah,
de nos...
Bravo, t'es déjà en train d'inciter des écoliers à rêvasser en classe au lieu de suivre à la lettre et scrupuleusement non, moi, ce que leur dit le professeur.
Tu sais pas que Positron est interdit aux moins de 18 ans, en fait? Ouais, bah, je ne parle qu'aux adultes.
Tu veux vraiment qu'on fasse un Positron interdit au moins de
18 ans? Non, c'est bon.
Parce que si tu veux, je peux me mettre dans ce mode-là. Hein.
Non, c'est pas la peine.
Et à côté de l'apéro du capitaine, ils peuvent aller se rhabiller. Hein.
Littéralement. Ouais. Bon, donc je suis avec Will et Jérôme pour la dernière fois de cette session. C'est notre quatrième épisode ensemble pour la deuxième fois. Ça va, vous n'êtes pas trop ému, trop triste? Non,
bah,
ça va, ok.
Bon. Bah, moi, je me dis, on va se retrouver que dans un an, du coup, donc bon, bah, ça peut.
Bah, bon, c'est pas, peut-être plus tard, peut-être plus tôt, je veux dire. Plus tôt.
Hein. franchement, là, c'est ouf, dur l'été.
Tu commençais en. Ouais, je comprends.
Ah, j'ai dû
je
vais dire toutes mes vacances pour venir enregistrer à chaque fois au Positron, quoi. C'est dur.
Oui, les gens se rendent pas bien compte à quel point c'est laborieux, hein, tout ça. C'est du. Toutes les. Un commitment de tous les instants. Comme on dit
parle
aux États-Unis.
Du coup, mon troisième cocktail, les glaçons étaient fondus, quoi. Ah voilà. Ah mais franchement, hein. Où va le monde?
Bref. Bon, eh bien, justement, je vais vous le dire où il va le monde avec ma première recommandation, ou en tout cas ma recommandation de cet épisode, qui est un film qui est absolument merveilleux. Et je sais, Will, que tu l'aimes aussi, puisque tu as mis dans les notes de l'émission. En majuscule, j'adore ce film.
Mais j'adore
film
ce film
avec deux points d'exclamation parce que c'est ce que t'as écrit.
Ah mais je l'adore. C'est pour moi c'est une tuerie. Voilà, c'est un
bon.
Super film.
Eh bien écoute, je vais pas faire attendre les auditeurs plus longtemps. Je vais vous parler donc de ce film qui s'appelle Contact et qui est un film de science-fiction de la plus pure tradition de la science-fiction. C'est n'est-ce pas? T'es d'accord?
Ah oui, alors là, j'en peux plus, moi, tu veux
faire l'arrivée, peut-être, non?
Ah non, mais vas-y, attends.
Alors, en fait, c'est un film qui est un petit peu âgé, déjà, qui a une quinzaine d'années, qui date de 97. C'est un film de Robert Zemeckis. Zemeckis, bien sûr, grand ponte de la science-fiction, justement. Back to the Future, etc., etc. Il l'a pris pour jouer l'héroïne de son film, une actrice absolument formidable, à savoir Jodie Foster. Il y a aussi un jeune Matthew McConaughey dans le film, qui a un rôle important, mais un petit peu moins. Vraiment, il repose sur Jodie Foster. Et en fait, c'est l'histoire d'une chercheuse, d'une scientifique, qui va découvrir les premiers signaux d'une intelligence extraterrestre. Et j'ai presque envie de pas trop en parler, de pas en parler beaucoup plus, parce que tout se passe avec une série de découvertes par rapport à ces signaux d'une vie extraterrestre, et le film est très très bien rythmé, c'est-à-dire que tous les quarts d'heure ou toutes les 20 minutes, on découvre une nouvelle chose dans ce signal et qui nous amène ailleurs et qui va nous emmener jusqu'à la conclusion du film dont je vais pas parler, mais le truc c'est que c'est monté, quand je disais comme un film de science-fiction hyper pur. C'est parce que je dis ça parce que c'est une base totalement réelle avec une chose qui change et essayer d'explorer si cette chose se passait. Comment est-ce que le monde évoluerait, réagirait, se transformerait. Et ils vont dans le plus pur réalisme, entre guillemets, si vous entendez les guillemets dans ma voix, le plus pur réalisme dans cette histoire. Et c'est, ça va pas, comment dire, je veux pas en dire plus.
Mais c'est ce qui est compliqué, moi je pense que c'est tu vois, c'est un film de science-fiction, alors pur, on peut pas faire plus. Cela dit, ce que c'est, il est clair que pendant une grosse partie du film, il faut pas s'attendre à avoir des effets spéciaux partout, avoir de la science, c'est ça, c'est avoir de la science-fiction, c'est assez curieux à dire, mais c'est un peu ça quoi, c'est-à-dire pendant la majeure partie du film, c'est de la science-fiction sans vraiment qu'on en ait plein la face de la science-fiction tout le
temps. C'est de la science-fiction sans science-fiction en fait,
mais oui,
c'est
mais
de
c'est vrai, c'est, enfin je veux dire c'est
ouais.
C'est ce qui peut en dérouter, ce que tu vois, moi je pense que c'est le seul point qui peut en dérouter certains qui s'attendent vraiment, je sais pas, à avoir des vaisseaux spatiaux dès le début et puis tout. C'est vrai que c'est un rythme qui est un peu différent et c'est une histoire qui est racontée un peu différemment et c'est justement ce qui fait, je trouve, tout le charme du film. Mais après bon.
Mais c'est vraiment, enfin pour moi effectivement, quand je dis c'est de la plus pure science-fiction, je suis très je crois vraiment en cette description parce que c'est vraiment quelque chose de comment dire, c'est vraiment que
on marche sur des œufs quand même, hein, parce que
ouais, parce que c'est effectivement cette c'est pas de la science-fiction futuriste, c'est de la science-fiction d'aujourd'hui, au temps présent.
Ouais, c'est ça.
Donc voilà, je sais pas si on peut vraiment en dire plus.
C'est très difficile parce que c'est vraiment tout ce. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se passent quand même dans l'histoire et
c'est disons que c'est pas Independence Day quoi, du tout.
Non, voilà,
du
c'est
tout
ça.
Du tout,
c'est
du tout,
l'anti-Independence Day quoi.
Voilà, ouais, un petit peu. Donc voilà, si vous ne l'avez pas, si vous l'avez raté quand il est sorti, ou si vous étiez trop jeune peut-être pour le voir, ça.
Et pour pour en comprendre aussi les. C'est une
les
histoire
détails,
qui est assez
complexe. Ouais.
Complexe, on va pas exagérer.
Non, peut-être
mais ça nécessite d'être, je pense, un peu mature pour réfléchir quand même, parce que ça pose plein de questions, ça part sur plein de principes, et du coup, on se pose un million de questions en s'en sortant. Pas des questions sur le, on n'est pas comme à se demander genre ce qui s'est passé, ce qu'on a vu, mais des questions voilà un peu existentielles, et ça c'est génial.
Donc là, c'est vraiment un film que quand je dis qu'il est parfait, parce que ça se goupille parfaitement bien, et à aucun moment de ce film, tu vas te dire ah ouais non mais ça c'est n'importe quoi. C'est vraiment crédible. C'est
ouais,
peut-être
clairement.
Ça qui est l'adjectif que je cherchais. C'est complètement crédible du début à la fin. Ça pourrait tout à fait se passer comme ça à toutes les étapes du film. Les réactions de tous les éléments de la société sont crédibles et ça pourrait être ça quoi. C'est pour ça que l'aspect science-fiction s'applique tout à fait. Entre parenthèses, je l'ai revu il y a pas longtemps avec ma femme et ma femme a détesté. Donc
mais voilà, mais tu vois, mais je pense non mais c'est ce que je disais, il y a vraiment beaucoup de gens qui ont détesté ce film. Je sais qu'il y a
ça m'a pas laissé c'est un vrai énorme que... souvenir moi. Je crois
ben
que
voilà.
Je l'ai vu mais
je peux comprendre parce
mais
que
je crois que j'ai bien aimé mais ça m'a pas laissé, enfin je suis beaucoup moins fan que vous quoi.
Mais je pense que c'est une question de rythme. C'est vrai, comme tu disais, que c'est pas Independence Day et on a tendance à partir.
Ouais, fais-moi pas passer pour un fan d'Independence Day.
Non, mais même c'est pas. Enfin, je veux dire comme 98% des films de science-fiction que tu vas trouver qui sont très action movie machin et tout. C'est vrai que
là, c'est pas un film d'action en fait.
C'est pas un film d'action quoi. Il se passe pas grand chose pendant une. Enfin, pas grand chose. Ça bastonne pas tous les côtés.
Non, il se passe pas grand chose. T'as raison. Il se passe pas grand chose.
2001 Odyssée de l'espace, il y a pas d'action non plus, mais c'est pas le même genre de film non plus. Enfin, non, mais je l'avais trouvé bien. Hein. J'ai pas un mauvais souvenir, mais j'ai pas un.
Et si je peux me permettre, il y a aussi de la musique géniale, puisque c'est toujours Alan Silvestri, donc qui avait fait aussi les musiques de Retour vers le futur et qui fait la BO de Contact et qui est aussi magnifique. Il y avait aussi Forrest Gump. D'ailleurs, il fait toujours les mêmes musiques.
Ouais.
C'est pareil, mais c'est aussi une très très belle musique. Ça va très bien avec le film.
Tout à fait.
Et Jodie Foster, parfaite.
Donc, si vous préférez la vraie science-fiction d'adolescent boutonneux, je vais oser le terme, vous pouvez suivre la recommandation de Jérôme.
Alors voilà. Ah merci avec une intro comme ça. Non, alors moi je vais vous parler de quoi qu'on en pense et tu as tout à fait le droit de dire ça Patrick parce que tu n'as pas complètement tort. C'est quand même un des pilier, on va dire, de la culture geek, qui est mal connu en France parce qu'on connaît surtout la série classique. Moi, je vais vous parler de Star Trek The Next Generation, qui est la deuxième série Star Trek. Qui, alors, Star Trek, c'est un univers qui a été inventé par Gene Roddenberry, qui est mort en 1991. Et Star Trek, la nouvelle génération, c'est une série qui est passée sur la télé américaine. C'est une série en 178 épisodes de 45 minutes qui a été diffusée entre 1987 et 1994. Alors, la série raconte les aventures au 24e siècle du vaisseau USS Enterprise, qui est une nouvelle entreprise, puisque ça se passe, si mes souvenirs sont bons, 90 ans après la série Star Trek classique, avec Spock, Kirk et tout le bazar, là. Et le vaisseau est commandé par un capitaine d'origine française qui s'appelle Jean-Luc Picard, avec tout son équipage. Alors, quand on a... Alors effectivement, quand on entend le nom Jean-Luc Picard, généralement... Bon, en fait, Roddenberry voulait faire un hommage appuyé à Cousteau, d'où l'idée d'avoir...
Ah, c'était pas à la chaîne de surgelé.
Oui, parce que Roddenberry connaissait très très bien la chaîne de surgelé Picard en France, oui. Alors, quand même... Jean-Luc Picard, justement, est joué par quelqu'un que tout le monde connaît, puisqu'il continue à jouer dans des films qu'on aime bien, c'est Patrick Stewart, qui joue aussi Professeur X dans les X-Men. Donc, c'était très intéressant quand on a vu cet acteur, qui est un acteur shakespearien à l'origine, un acteur de théâtre, venir prendre le rôle d'un capitaine de Star Trek, qui avant était tenu par Captain Kirk, qui était un espèce de cow-boy qui donnait des coups de poing à tout le monde et qui sautait de toutes les extraterrestres. Et là, tenu par un homme mûr, d'un âge respectable, avec une tenue et une prestance toute shakespearienne. Donc, ce contraste était très intéressant. Alors, avertissement, comme dans toute série Star Trek, et c'est pour ça que Patrick, dans sa méconnaissance et son ignorance, a eu ce type de réaction, comme dans toute série Star Trek, le ridicule côtoie le génial et le kitsch se mélange au design visionnaire. C'est-à-dire Star Trek, il faut quand même être un peu blindé. Vous allez voir des épisodes complètement catastrophiques avec des morceaux de latex qui pendouillent, des gens en pyjama qui font semblant que le vaisseau est en train de tomber. Il y a vraiment des moments qui sont difficiles. Il y a des moments ridicules. Mais si vous arrivez à passer cette barrière-là, il y a dans certains scénarios et certains épisodes, et c'est là l'avertissement que je donne, c'est que la série est très inégale. Il y a des épisodes qui sont mais vraiment magnifiques en écriture, qui sont dignes d'un bon bouquin de science-fiction. Et alors, la série a connu grosso merdo deux époques. Les trois premières saisons, c'est Roddenberry qui était encore aux commandes. Il était vieillissant, il avait très très peur que sa série soit décriée, et c'est ce qui s'est passé. La série a eu vraiment du mal à décoller pendant les trois premières saisons, l'audience n'était pas au rendez-vous, il y a quelques épisodes qui sont géniaux, mais franchement, les trois premières saisons, c'est vous allez souffrir. Il y a vraiment des épisodes nazes quoi, dans les trois premières saisons, et la série a bien failli disparaître pendant ces trois premières saisons. Ensuite, à la mort, enfin, c'était pas tout à fait la mort de Roddenberry, mais sa santé était vacillante. Il a laissé.
Quand il était plus tout frais,
il a laissé d'autres scénaristes sur le coup, qui étaient des vrais fans de l'univers Star Trek, et qui ont repris la main jusqu'à la saison 7, en étant très respectueux de la grammaire de l'univers Star Trek, mais qui ont eu le talent immense de ramener la série Star Trek à sa vraie origine. Star Trek, ça a toujours été, la série des années 50-60, était aussi une forme de dénonciation et d'interpellation sur des problèmes que la société américaine vivait à cette époque-là, en les transposant dans un univers de science-fiction. Et c'est ce que fait Star Trek La Nouvelle Génération, avec, sous vernis d'une aventure d'exploration extraterrestre, la série traite des grands problèmes réels de son époque, c'est-à-dire les années 80 et 90, à savoir la guerre, la drogue, l'identité sexuelle, la politique, les maladies transmissibles, les situation diplomatique inextricable, les méfaits de la technologie, les bienfaits de la technologie, le virtuel, puisque c'était la naissance du virtuel, le racisme, la mort, la souffrance. Des grands sujets de société, dans certains épisodes, sont brièvement traités. Par exemple, la drogue, l'équipage est confronté à une civilisation entière qui est sous l'emprise d'une drogue qui a été inventée dans les laboratoires, à laquelle on ne peut pas résister, et qui a été airborne, diffusée dans l'air. Et donc, qu'est-ce qu'on fait face à une planète où toute la planète est intoxiquée et liée à une substance, donc ça pose tous les problèmes de liberté, d'intoxication, etc. C'est juste pour vous donner un aperçu. L'identité sexuelle, il tombe sur une race extraterrestre et Riker, qui est le second sur le vaisseau, tombe amoureux de l'extraterrestre qui en fait s'avère être un homme, mais qui est une espèce hermaphrodite, c'est-à-dire qu'il y a les deux sexes. Donc ça donne des épisodes un peu bizarres.
Oui, il s'emmerde, il souffle dans son...
Non, pardon, c'est mon téléphone, téléphone qui a vibré au plus mauvais moment. Mais, excusez-moi.
Bref.
Mais ouais, non, de... c'est... Pardon, vas-y.
Ouais, bon, non, vas-y, pardon, Patrick.
Non, je disais, c'est vrai que ça a l'air, ça, c'est quand même intéressant. Et puis, je plaisantais hein, tout à l'heure, Star Trek, c'est effectivement un des piliers de...
Je vais vous prendre par la main à la fin de mon truc pour vous faire rentrer et vous éviter trop de déconvenues. En fait, le monde de Star Trek sous Next Generation devient extrêmement complexe et subtil, beaucoup plus que la série classique. Surtout dans les dernières saisons, on s'éloigne complètement des mecs en pyjama avec toujours le même scénario. On arrive avec alors déjà, il y a la vraie émergence d'une notion qui est très importante dans l'univers des Trekkies, qu'on appelle la Prime Directive. Je vais pas rentrer dans les explications de la Prime Directive, mais en gros, c'est un principe de non-intervention dans les affaires des autres, qui s'applique à l'ensemble de la galaxie. Et beaucoup d'épisodes se posent justement sur les conflits interne que peut se poser les hommes de décision par rapport à la Prime Directive. Quand une planète entière est en train de s'autodétruire dans une guerre, on n'a pas le droit d'intervenir. Donc ça pose des nœuds gordiens qui sont très compliqués à résoudre et ça donne des épisodes absolument géniaux. Mais là où la série est vraiment dans l'air du temps dans les années 90, c'est qu'elle a aussi le talent. On a des épisodes complets sur la complexité des rapports humains. Imaginez hein, quand même une population humaine dans une boîte de conserve dans l'espace, ça donne quand même un condensé de nos sociétés. Donc ça aborde les problèmes de famille, d'identité, d'appartenance, toutes les dynamiques extrêmement complexes qu'il peut y avoir dans un groupe d'individus. Un très rapide brossage des personnages principaux. Donc j'ai déjà parlé du capitaine Jean-Luc Picard, un Français, quelqu'un avec énormément de culture, très sage, un grand Manitou, mais qui a d'énormes failles. Et notamment dans les dernières saisons, ça devient... Enfin, c'est très intéressant. Patrick Stewart a donné une dimension incroyable à ce personnage. Vous avez le Data, qui est un androïde, avec toutes les questions qu'il peut se poser d'un androïde qui cherche, par exemple, à découvrir ce que c'est que l'humour. Ça donne des répliques à la Patrick, en fait, dans certains épisodes, qui sont absolument géniales. Regardez l'épisode...
Je l'ai pas vu venir, celle-là.
Où Data apprend à caresser un chat. Imaginez un androïde qui apprend à caresser, à nourrir un chat. Ça donne... mais vraiment des trucs hilarants. C'est joué par un acteur qui était mime à l'origine, donc il fait très très bien ça. Vous avez je brosse vite, mais vous avez un Klingon en recherche d'identité complètement complexé. Alors un acteur que vous allez reconnaître, c'est Colm Meaney, c'est Miles O'Brien, c'est un acteur qu'on a vu dans Full Monty, c'est un acteur irlandais qui joue un espèce de mec assez normal sur l'Enterprise, donc le rôle est très très intéressant. Quelqu'un que vous avez certainement vu dans Big Bang Theory, et c'est justement pour ça que je dis que Star Trek Next Generation est important pour la culture geek, c'est Will Wheaton, qui jouait en fait Wesley Crusher, le petit, on va dire, c'était un peu le... Merde, comment il s'appelle le personnage dans Star Wars que tout le monde déteste,
Jar Jar Binks.
Voilà. Ils avaient essayé de mettre un adolescent un peu prépubère pour attirer un public plus jeune. Et Will Wheaton, ça a été à la fois sa chance et sa damnation parce qu'il a plus trouvé de rôle après cette série. Et alors un personnage.
Non, maintenant aussi... ça va, Will Wheaton.
Oui, là ça va. Mais il a bien rebondi justement sur ce côté.
Ah oui, c'est devenu une icône geek justement.
Et c'est devenu une icône geek. Et alors un personnage aussi important que Jean-Luc Picard.
On peut plus l'arrêter là, Jérôme.
Et s'il y a non, mais j'ai bientôt fini. S'il y a une raison de regarder cette série, en plus de Patrick Stewart, c'est de découvrir le personnage de Q. Q, c'est une espèce...
Ah oui, c'est le vieux qui donne des gadgets, là, non ?
Non, 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 ça c'est dans James Bond.
Ok, d'accord. Okay. Non, je confonds les deux parfois, c'est pour ça.
L'entité Q, c'est, alors je ne peux parler que de l'entité parce qu'on ne peut même pas parler d'un individu, mais je veux pas spoiler. Imaginez, on sait pas si c'est un être vivant ou un dieu, mais quelque chose qui aurait un pouvoir omnipotent total, c'est-à-dire il peut tout faire, d'un claquement de doigts détruire une galaxie, enfin il peut tout faire. Qu'est-ce qu'il va choisir de faire? Et en fait, on a affaire à un espèce de personnage complètement sadique qui joue un peu comme un vieux dieu grec, joue à tout à faire des tours un peu malicieux et à torturer en fait l'équipage en les faisant apparaître au Far West avec des pistolets à balles alors qu'ils étaient en mission. Donc ça donne des épisodes mais vraiment haut en couleur. L'acteur qui joue Q, j'ai pas son nom là, mais il est absolument génial. Donc il faut regarder très rapidement. Si vous voulez découvrir pourquoi Star Trek Next Generation, j'ai fait un test aussi long et que je vous en parle aussi longuement. Je vous conseille la chose suivante. Vous regardez les 2-3 premiers épisodes qui, je vous assure, sont très mauvais. Vous allez souffrir pendant les 2-3 premiers épisodes, mais il faut quand même les regarder pour comprendre qui sont les personnages. Ensuite, vous suivez la liste que je vais vous donner des 10 épisodes à regarder et après vous faites une idée si vous voulez regarder la série ou pas. En numéro 10, vous regardez l'épisode.
Ouais, tu veux pas nous donner la liste par écrit et puis on la mettra sur le site.
Ouais. Voilà, allez la retrouver sur le site de Patrick. Ouais, mais je voulais commenter chacun des épisodes, mais j'aurai pas le temps.
Bah oui, disons que là, oui, ok. Non, je sais que c'est... Non, mais tu sais quoi, Jérôme? Moi qui, a priori, n'étais pas hyper intéressé, tu m'as donné un petit peu envie.
Ouais. Donc,
mais franchement, regardez ces 10 épisodes là, quoi.
Moi, j'ai juste un problème.
C'est que je donne juste un tout petit scénar d'un épisode qui s'appelle, si mes souvenirs sont bons, Measure of a Man. Imaginez que en une fraction de seconde, vous évanouissez et vous vivez une vie entière jusqu'à votre mort dans une autre réalité et que vous vous réveillez après dans la première réalité la seconde d'après. Imaginez ce qu'on peut ressentir. En gros, c'est le capitaine qui se retrouve à vivre une vie complète dans un autre univers en une fraction de seconde. Et voilà, c'est des épisodes barrés comme ça, quoi.
Mais c'était un peu sous acide quand même. Mais d'ailleurs, juste pour terminer là-dessus, moi le problème c'est que j'ai la seule vidéo que j'ai vue de Star Trek Next Generation, c'est une vidéo que vous pouvez retrouver partout sur Internet où ils ont enlevé le tremblement de caméra dans une scène où tous les acteurs sont censés être secoués dans un vaisseau. C'est une petite vidéo culte sur Internet. Si vous cherchez Star Trek, without the camera shake. Alors, je pourrais vous dire que c'est.
Il y a des moments hautement ridicules. Hein. J'ai fait toutes les préventions. Vous allez le trouver en France. Sont en train de restaurer à partir des... Parce que ça a été filmé avec de la péloche à l'époque. Ils sont en train de restaurer les coffrets Blu-ray qui vont sortir. C'est des versions restaurées avec des nouveaux trucages. Ça n'empêchera pas les mauvais trucages. Mais bon, voilà. Ça sera un petit peu restauré.
je suis en train de voir effectivement Star Trek Without the Camera Shake. C'est pas mal.
Ah bah moi j'ai pas un Pinterest, j'ai un flipboard entier de gifs ridicules de Star Trek Next Generation et par exemple le match de foot du Brésil, je l'ai commenté avec des gifs en fait de la série Star Trek qui sont complètement ridicules.
Pas mal. Bon, bah écoute, merci beaucoup Jérôme. Et comme on le disait, allez sur le site sur frenchspin.com pour découvrir les 10 épisodes à ne pas rater. Mais c'était les 10 des 3 premières saisons ou
non,
les 10
alors,
en tout?
Non, c'est dans les 7 saisons.
D'accord, donc c'est le meilleur quoi. D'accord.
C'est pas moi qui ai choisi, hein. C'est tout le monde qui s'accorde à dire que c'est les 10 épisodes qu'il faut regarder, classés dans l'ordre.
D'accord.
Et qui vont de la saison 3. La saison 1 et 2 sont vraiment mauvaises. Il y a qu'un seul épisode qui vaut le coup. Mais à partir de la saison 3, ça devient un peu mieux et ça devient sublime saison 5, 6 et 7.
D'accord. Ouais. Par curiosité, s'il y a des gens qui sont vraiment motivés, est-ce qu'ils peuvent regarder genre 2 ou 3 épisodes et puis ensuite sauter à la saison 4?
Alors c'est pour ça que j'ai dit regardez quand même les 2 premiers épisodes pour comprendre les personnages et après vous suivez ma liste.
Non, mais je veux dire s'ils veulent vraiment suivre plusieurs saisons, est-ce qu'on peut commencer à la saison 4 et continuer ou...
Ça va être difficile parce que même si c'est mauvais, il y a quand même des choses qui se passent. C'est pas
d'accord.
Une série feuilletonnante.
D'accord. Ok, bah merci Jérôme, c'était donc pour Star Trek The Next Generation et on enchaîne avec Will. qui a disparu.
Oui, non, qui a eu une coupure de son au moment où tu as parlé. D'accord. Donc qui attendait ton top départ, mais il l'a entendu. Et on va parler maintenant c'est le dernier bien mais culturel, oui, duquel on parle. Oh là là, c'est triste. Je me rends compte maintenant, tu vois. Alors, je vais parler d'un album, un album très très sympa qui s'appelle Tada. Comme Tada, vous savez là.
Tada.
Voilà, donc Tada, c'est vraiment de là où ça vient. C'est le deuxième album du groupe Scissor Sisters, qui est sorti en 2006 chez Polydor. Alors, vous avez peut-être entendu parler des Scissor Sisters, ou peut-être pas. Ils ont un succès d'estime en France, mais ils ont surtout cartonné en Angleterre. C'est vrai qu'en Royaume-Uni, ils sont plutôt très connus, même s'ils sont américains. Et aux États-Unis, personne ne les connaît. En Angleterre, beaucoup de gens les connaissent. C'est un groupe de musique pop qui a des grosses influences disco et ce qu'on appelle le glam rock. Alors c'est très spécifique, hein. Glam rock, j'avoue que je sais pas trop où le classer, mais bon, c'est du
c'est connu,
mais voilà, ça reste quand même, oui ça reste quand même. Non, mais j'étais en train de réfléchir sur iTunes si ce serait dans la catégorie rock ou ailleurs, mais non, ce serait dans rock, je pense. Donc disco et rock, ils sont très connus dans la communauté homosexuelle notamment, parce que leur nom Scissor Sisters fait référence à une position sexuelle lesbienne, voilà, ça peut vous intéresser. Le logo d'ailleurs ressemble à...
je suis désolé, crois que j'ai compris.
le logo ressemble à une paire de ciseaux chaque branche de la paire de ciseaux sont des jambes avec au bout des talons aiguilles. Donc c'est un concept assez original. Ils sont assez excentriques, faut être tout à fait honnête, hein. Bien que qu'on soit d'accord, c'est pas non plus ils sont pas non plus déguisés, c'est pas des transformistes, c'est pas un truc complètement fou.
Loufoque,
on va dire, voilà, c'est le mot que je cherchais. Et dans leurs chansons, ils mélangent en général humour et parfois des chansons un petit peu plus tristes, un petit peu plus mélancoliques. Alors cet album Tada, c'est le premier album en fait que j'ai découvert d'eux. Donc il était sorti en 2006 et ils ont essayé de lancer en France, en fait, de lancer vraiment le groupe en France, parce que ça marchait énormément avec leur premier album en Angleterre. Donc ils se sont dit, on va essayer de faire venir dans le reste de l'Europe. Bon, malheureusement en France ça a pas cartonné outre mesure. Et pourquoi j'ai adoré cet album, parce que leur premier single qui est sorti, qui s'appelait I Don't Feel Like Dancing, qui est une chanson pour moi mais juste génialissime, parce qu'elle est extrêmement disco. Alors, modernisé avec son actuel, hein, on est d'accord, c'est pas non plus de la disco 100% pur jus, mais quand même, ça y ressemble beaucoup. Et avec le leader, le chanteur du groupe qui s'appelle Jake Shears, qui a une voix très haut perché, très aiguë, un peu, vous savez, un peu comme dans les Bee Gees, vous voyez, ce côté genre on met la voix bien haut, et c'est voilà, c'est très drôle, c'est très sympa à écouter. Et je t'ai envoyé
Tu veux qu'on passe un petit morceau?
Tu peux cliquer dessus, ça lance direct au bon moment.
Ah ouais.
Attention, alors il y a le refrain qui arrive, parce que c'est ça le plus intéressant. Voilà, donc c'est...
C'est pas
mal. Voilà, c'est
moi j'aime bien, ouais.
Voilà, non, mais je savais pas que c'était eux, mais je l'avais mis dans mes favoris déjà cette.
Bah voilà, c'était. Moi je trouvais ça. En fait, pourquoi j'ai adoré cette chanson? Parce qu'à l'époque où elle est sortie, faut se rappeler qu'on se tapait quand même tout au long de l'année du Raphaël Caravan ou alors du James Blunt You're Beautiful. Donc on était un peu, c'était un peu la tristesse incarnée. Dans cette période, on aimait bien faire des chansons un petit peu tristounes. Et là, je trouvais que ça c'était sympa parce que c'est. Alors c'est sûr que c'est disco, mais c'est fun, quoi. C'est-à-dire, c'est la chanson qui fait plaisir, qui fait sourire. Tu regardes ça, c'est sympa. Bon, le clip, il est aussi complètement déjanté. Il y a une esthétique qui mélange à la fois les codes des, vous savez, toutes les couleurs un peu arc-en-ciel, un peu n'importe quoi des années 70. Et à des effets de collage, comme le clip de Leave Me Alone de Michael Jackson. Je sais pas si vous savez duquel je parle. Il y a vraiment ces effets vraiment collage, machin. Et donc c'est un clip qui est un peu bordélique, mais qui correspond bien, je trouve, au ton et de l'album et du groupe et ce qu'ils essaient de montrer, qui est à la fois déconnant et en même temps parfois un peu plus triste. J'en parlerai très très vite dans notre titre. Donc voilà, un super album que je recommande tout de même aux fans du genre. Parce que je peux comprendre que ça plaise pas à tout le monde. C'est assez excentrique, mais c'est très sympathique. Faut aimer le disco. Tous les titres de l'album sont pas extraordinaires non plus, hein. C'est, il y en a deux, trois qui sont un peu, bon, un peu en dessous. Mais il y en a qui sont vraiment très, très bien. Il y a des pépites comme She's My Man. Bon, voilà. Ou, Land of a Thousand Words, qui est une très, très belle balade, beaucoup plus triste, mais, qui s'écoute, très, très bien et qu'il faut pas non plus écouter le dimanche soir, quand il pleut, comme Jérôme avait dit. Mais c'est une très, très belle musique. Donc, un super album que je recommande aux fans du genre. Donc, ceux qui aiment le rock glam et le pop et le disco. Et voilà.
Super. Et eh ben écoute, merci beaucoup Will, ça m'a intéressé aussi. Donc on vous rappelle Oui, Jérôme.
Oui oui, non, ça m'a intéressé aussi et je suis en train de prendre l'album.
Super. Merci. Donc Will, donc on vous rappelle ce dont on a parlé aujourd'hui, Contact, qui est un film a priori pour tous selon moi, Star Trek The Next Generation, qui est une série donc plutôt pour les fans du genre, oui. Et enfin Tada, comme des Scissor Sisters, qui est un album pour les fans du genre aussi. J'espère que ces recommandations, ces positrons, vous auront inspiré en cette rentrée, donc, puisque nous sommes le 4 septembre, au moment où cet épisode sort. Hein.
Je te mets la musique de Star Trek, Patrick, on dirait que tu étais le capitaine.
D'accord. Dans un podcast. Dans un podcast qui part aux confins. Attends, il faut que je la mette moi-même parce que Trek intro.
Non, Next
Star
Generation.
Next.
Ah oui,
Generation.
Sinon on va
voir. Oui, c'est ça. Oui. Alors attends. Non, coupe la tienne, Jérôme.
D'accord. Non, je préfère la garder.
Voilà. Hop. Dans un podcast où on vous recommande plein de trucs cool. Où William, Jérôme et Patrick se retrouvent ensemble pour vous faire découvrir les confins de la culture. Une émission qui vous distrait, qui vous amuse, qui vous informe, qui vous éduque. Ah oui, non, tais-toi. Non, non, mais non, c'est pas ça.
Ah, attends, bon, la voix de Patrick Stewart. J'ai des frissons.
Bon, écoutez, c'est sur cette présentation vocale qu'on va vous quitter. Et qu'on va effectivement quitter Jérôme et Dany. Non, pas Dany. Will. Je sais pas pourquoi mon pote Dany est venu dans ma tête en regardant Star Trek.
Ah, voilà.
Donc, et Will, qui vont donc être plus là pour les prochains épisodes. C'est très triste. Mais
disons qu'il va y avoir une année de creux.
Voilà, c'est ça.
Voilà, jusqu'à
une traversée du désert.
Un pic d'audience l'année prochaine. Ouais, ouais.
Bon, où est-ce qu'on peut vous retrouver pendant cette année de creux, justement?
Moi, vous pouvez me retrouver toutes les semaines dans WAC. A priori, on devrait reprendre dans pas très longtemps. C'est une émission de divertissement, un podcast que vous pouvez retrouver sur YouTube, sur iTunes, sur SoundCloud. On est un peu partout. Et surtout sur le
site.
Donc,
toutes les semaines, hein?
Mais bien sûr. Évidemment, toutes les semaines. Non,
d'accord.
C'est des semaines.
Non, non, continue, mais ne te laisse pas distraire.
C'est des semaines quantiques.
Ah, ok, ça. Voilà.
Non, mais normalement, c'est toutes les semaines. En tout cas, okay. On fait tout pour. Et oui. Vous pouvez retrouver cette émission sur willandco.fr. Vous y trouverez toutes les informations nécessaires. Voilà.
Super. Et sur Twitter, par exemple, si on veut vraiment te suivre au quotidien.
Alors, sur Twitter, vous pouvez suivre le compte de l'émission qui est @willandco aussi. Pour me suivre, moi, c'est @WilliamAbisror. Bon courage pour écrire mon nom de famille. Voilà.
On mettra dans les notes de l'émission, voilà. Ça sera plus simple. Et Jérôme, pour toi?
Alors moi, vous pouvez me retrouver sur nowtech.tv, des tests vidéo à parution irrégulière et assumée, parce que je suis pas fou, je me suis rien engagé à faire. Alors des tests d'applications et puis des tests de petits trucs technologiques qui vont de l'appareil photo au stylet pour votre iPad ou ce genre de choses. Voilà, je teste ça en vidéo. On a des tests écrits. Je dis on parce qu'il y a Marion aussi qui écrit des articles ou qui fait des tests sur nowtech.tv. Et sinon, sur Twitter, c'est @JéromeKenborg, KEINBORG. BORG comme Borg, Borg comme Star Trek, comme Star Trek The Next Generation. Wink.
Super, magnifique, Jérôme, j'adore. Et pour ma part, c'est Note Patrick sur Twitter ou sur Facebook d'ailleurs. Vous pouvez me retrouver sur Facebook aussi. Et évidemment sur frenchspin.com pour les notes de l'émission, pour nous laisser des commentaires, nous dire ce que vous avez aimé ou pas. Et laisser surtout des commentaires sur nos commentaires à nous qu'on fait pendant l'émission sur les recommandations les uns des autres. Donc si vous dites Patrick, t'es vraiment un abruti de dénigrer Jérôme quand il parle d'une si belle série que Star Trek, bah vous pouvez, c'est là-bas, c'est sûr. frenchspin.com. On vous donne donc rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode avec de nouveaux invités et on vous fait plein de grosses bises d'ici là. Ciao à tous.
Salut.
Ah, j'ai oublié de vous parler des Borg, c'est vachement important les Borg quand même.
Et ils sont arrivés dans Next Generation ou
avant? Oui, bien sûr. Bah,
ah, d'accord.
C'est justement, okay. C'est là que Picard s'est fait choper par les Borg.
S'est fait borgifier.
Et s'est fait borgifier, ouais.
Bon, allez, ça sera pour la prochaine fois. Venez nous dire ce que vous pensez des Borg sur frenchspin.com.
Flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.